Leslie John au couloir numéro 2. Allez, ouais, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, super marqué. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme. Ouais.
Et salut à tous, 157e émission de l'Instant Sport aujourd'hui. Tiens, Laurent Julien, on va lui dire bonjour. Salut, salut Laurent.
Bonjour tout le monde.
En forme.
Oui.
Dissipé aujourd'hui. Il est dissipé, mais je sais pas ce qui se passe, si c'est la pluie, le coronavirus, l'élection de Miss France, je sais pas.
Ah non. Non, c'est rien du tout, c'est de vous retrouver les copains.
Ah, bah c'est chouette alors. Salut Patrick.
Que des mâles autour de la table aujourd'hui.
Salut, bonjour à toutes et à tous.
C'est ça. Julien Gall, salut.
Bonjour à toutes et à tous.
Et Nicolas Thomas.
Bonjour à tous, bonjour Messo, j'espère que tu vas bien ce matin après la belle défaite d'hier soir.
On va en parler en fin d'émission peut-être. Ouais, que des hommes aujourd'hui, mais il y a Cucu qui va faire bientôt son retour parce que j'ai décidé de faire des turnovers dans cette équipe. Il y en a qui ont trop l'impression d'avoir leur place assurée et ça me plaît pas trop. Il y a personne qui est indiscutable ici à part Patrick Biancone. Personne.
Ah, je suis titulé indiscutablement.
Et ouais.
On a parlé les trois pubs blancs là, en face de nous ou pas?
Ouais, c'est vrai que c'est ridicule.
Ouais. Non, mais on fera. Non, mais ce qu'on fera une photo à la fin avec nos amis de l'ENL, comme ça, on le mettra sur les réseaux sociaux.
C'est ça. On a deux invités. On va parler de l'Antoine Nord-Lozère avec
Lilian. Nouvel expert des réseaux sociaux.
Condon, entraîneur de l'équipe 1. Bonjour, coach.
Bonjour. Merci de votre invitation.
Bah, avec plaisir. Aurélien Malartre, joueur qui est là aussi. Salut.
Salut, salut à tous.
Et ouais, ça fait un moment qu'on voulait vous inviter avec cette belle saison, hein. Cette année de l'ENL, on s'y attendait pas forcément à ce que cette saison soit aussi bien réussie, à part Patrick.
Si, parce que j'avais vu le coach avant que la saison débute. Et bon, il est quand même prudent, mais on sentait qu'il était ambitieux et qu'il sentait qu'il avait un coup à faire. Et d'ailleurs, je crois que j'avais titré notre place étant R2 ou R1. Donc, déjà, rien que dans le titre, ça voulait tout dire.
Ok. Mais tu as eu raison pour l'instant, enfin, du moins l'équipe est en tête en championnat ce week-end, bah, quitte à faire on joue deux fois, hein, deux coupes, la coupe Laura Foot et la coupe du Cantal. Du coup l'équipe 1 a joué la coupe Laura Foot contre Chamalières à domicile et l'équipe 2, renforcée quand même pas, il me semble par des joueurs de l'équipe 1, était à Espina pour la coupe du Cantal. Finale 3 buts à 1 en coupe du Cantal en 8e de finale sur le terrain d'Espina et 3 buts à 0 en Laura Foot, but de Brunel, Croza et Rua. Tout va bien du côté de l'ENL?
Bah écoutez, on est sur une bonne dynamique. On était parti sur un début de saison avec des objectifs importants. On essaye de maintenir ça. Aujourd'hui, là, on était sur un week-end de coupe avec deux équipes engagées. Donc l'équipe 1 était engagée sur les deux compétitions. Il a fallu s'adapter, faire des choix et proposer deux équipes compétitives avec aucune certitude. L'objectif principal reste malgré tout l'accession en R2 avec l'équipe 1, mais bon, on voulait garder la dynamique et poursuivre notre lancée et nos victoires. Week-end tout bénéfique, puisqu'on a deux victoires, on est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe Laura avec une belle performance de l'équipe contre une belle équipe de Chamalières de R2 qui nous a proposé une belle opposition. On a su résister et l'emporter 3-0. Et hier, le groupe plutôt de la réserve, donc sur un terrain très très compliqué à Espina, très humide, du vent, de la pluie, des conditions un peu dantesques. Bah, les gars ont su sortir le bleu de chauffe, marquer quand il fallait, être solide et ramener une belle victoire pour le club. Donc c'est vraiment le maître mot, c'est le groupe. Et là, on s'aperçoit sur ce type de week-end que on a un vrai groupe, une, deux et équipe 3 réunies.
C'est important pour aller loin dans toutes les compétitions, c'est important. On l'a toujours dit dans cette émission, Patrick, ça fait maintenant, je sais pas, 4 ans qu'on fait cette émission, donc on a vu un peu des changements au niveau de l'ENL, que la place de ce club Nord-Lozère est en R1, minimum.
Oui, c'est vrai qu'on peut l'imaginer. Il faut pas oublier que l'ENL a une bon, même si c'est une fusion, on le sait, mais il y a quand même une histoire derrière ce club. Et d'ailleurs, on a souvent parlé de l'AFL qui était en N3, on a parlé de l'Éveil qui a été en CFA2, mais il faut jamais de citer que l'ENL, ça a été avant l'Éveil, avant l'AFL, était en CFA2, puisque à l'époque c'était le CFA2, et d'ailleurs ben, le président c'était Lulu Trébuchon qui après est venu lever main droite, et donc c'est pour ça qu'elle fait... Et après l'éveil mandois est allé en CFA2. Donc il y a toute une histoire derrière l'ENL. Et c'est vrai que depuis quelques saisons, ben, la dynamique était cassée, puisque il y avait quand même des descentes successives. Et c'est vrai que ça fait bizarre, ça on l'a toujours dit, ça fait bizarre de dire ben, l'ENL en R3. Surtout que R3, ben, presque à l'ancienne époque, c'était presque la PHA, quoi. Puisque la R3, ça n'existait pas, ça a été créé il y a quelques années quand il y a eu la fusion des régions. Donc, ça correspond à ce qu'on appelait une époque la PHA, quoi. Bon, même si c'est au niveau régional que la PHA, c'est plus district, mais quand tu fais les niveaux, ça correspond à la PHA. Donc, c'est vrai que ça fait bizarre. Et donc, ben là, depuis cette année, on sent qu'on repart sur de bonnes bases. Et donc, cette première place, avec cette volonté de monter en R2, ça, c'est serré, on le voit au classement. Il y a 3-4 équipes qui peuvent et qui vont jouer l'accession jusqu'au bout. Mais ça fait plaisir, en tout cas pour nous qui aimons le sport partout en Lozère, de revoir l'ENL rejouer les premiers rôles et réenclencher cette dynamique de repartir vers les divisions supérieures.
Qu'est-ce qui a changé cette année ?
Après, je pense que bon, pour revenir un petit peu sur ce que disait Monsieur Biancone, c'est que un club, c'est des cycles. Hein. On est resté depuis 30 ans maintenant que l'entente Nord-Lozère existe. Donc en effet, on est parti sur du niveau de très haut niveau avec le National 3, D4 même à l'époque, CFA2. On est passé un peu par tous les noms. C'était une autre dynamique, une autre vision du football et d'un club. Avec d'autres ambitions, des moyens qui étaient là ou pas là. En tout cas, voilà, c'était une autre politique. Entre-temps, on est passé sur des cycles avec de la R1, R2, qui, à mon sens, voilà, ce que je disais en début d'année, c'est la place de notre club. On est deux petits villages malgré tout, un bassin de population qui est petit, donc on doit tirer notre épingle du jeu là-dessus, s'adapter, trouver les bonnes conditions, garder nos joueurs. Après, ce qui a changé cette année, c'est pas cette année. Il y a 3 ans, quand le club a été repris par des dirigeants qui ont souhaité reconstruire quelque chose. Après, moi, ce que je dis, je veux absolument pas occulter le travail qui a été fait auparavant par les anciens présidents. Et c'est tout à fait respectable. À partir du moment où une personne s'engage dans un club, bon, pour moi, là, tout mon respect et chapeau. Ce qui a été fait avant, il faut pas l'oublier. Après, voilà, Philippe Bonal notamment, qui s'investit depuis maintenant 3 ans de manière remarquable, a fait un travail déjà dans un premier temps pour assainir le club au niveau des finances, au niveau de l'organisation, commencer à le structurer. Et voilà, donc les 2 premières années ont été un peu axées là-dessus. Cette année, on est parti sur l'aspect sportif où on souhaite vraiment évoluer et avancer sur cet aspect. Maintenant que les finances, l'organisation commence à être un petit peu saine, on a axé le projet sur le sportif et l'accession au niveau supérieur pour les équipes seniors et pour les équipes de jeunes aussi, parce que nos équipes de jeunes U15, U18 sont premières de leur poule et sont sur le point d'accéder au niveau ligue aussi, quoi.
Et sur l'avenir de l'équipe Fagnon.
Sur l'avenir de l'équipe Fagnon, puisque quand on parle de politique de club, l'objectif et l'idée du club est de pouvoir former ces jeunes joueurs pour que demain ce soit eux qui assurent la pérennité du club et jouent sur l'équipe Fagnon. C'est déjà en partie le cas puisque, comme je disais, 95% de l'équipe 1, c'est des joueurs qui ont été formés au club, qui ont joué au club ou qui sont du bassin de Saint-Chély.
Justement, par rapport à ça, cette année, il y a eu le retour de joueurs qui ont déjà joué à l'ENL. Donc, je pense à Aurel qui est avec nous, ou sinon à des joueurs comme Mathieu Gay, voilà, qui avait peut-être coupé avec le foot compète, quand bien même il jouait en foot entreprise, hein, voilà des anciens joueurs qui avaient connu des belles heures de l'ENL qui sont revenus. Est-ce que ça participe aussi de cette réussite cette année?
Non, mais tu disais la question avant qu'ils répondent. Qu'est-ce qui a changé? C'est vrai que qu'est-ce qui a changé? Il y a eu un bon recrutement, aussi bien quantitatif que qualitatif. On en avait parlé avant la saison. Et c'est vrai comme moi que tous les joueurs qui sont arrivés, c'est quand même des éléments importants, clés de cette équipe. Tout à fait.
Après, on a fait un gros travail au niveau du recrutement. C'était important de pouvoir récupérer, entre guillemets, ces joueurs issus du club. Après, je commence à avoir avancé en âge, mais malgré tout, j'ai des joueurs comme Mathieu Gay ou Franck avec qui j'ai pu jouer par le passé, que j'ai pu réussir à convaincre de revenir au club. Des garçons comme Aurélien, que je connais à côté, qui paraissait important de participer à ce projet-là, quoi. Des garçons comme Victor Sartre, tous ces joueurs-là, c'était primordial. On avait, sur les deux années passées, on avait des jeunes du club, mais encore trop jeunes et pas complètement aguerris à ce niveau-là, qui ont été projetés un petit peu rapidement, peut-être, sur des niveaux régionaux, sans avoir des personnes suffisamment expérimentées pour les encadrer.
Oui, c'est ça. Puis ça s'appelle aussi l'amour du maillot, un petit peu, ces retours au pays, pour certains. Aurélien, comment c'était passé pour toi? Alors, je sais que tu es passé à l'AFL, à Badarou. Tu es retour aux sources. C'est l'altitude qui te manquait? C'est les copains? C'est quoi?
C'est ton frère, ça? Non, c'est surtout. Lilian m'avait appelé avant la fin de saison et c'était surtout l'opportunité aussi de jouer avec mon frère parce que. Il commence à se faire vieux aussi. Et du coup, c'était l'opportunité de faire une année ensemble au minimum. Et puis après, le projet qu'il y avait, c'était assez intéressant. Et l'objectif de jouer la montée, ça pouvait être jouable. Et puis, il y a pas mal de jeunes de qualité au milieu. Donc, franchement, on se régale sur et en dehors du terrain.
On n'avait pas dit que le stade de Saint-Alban était maudit aussi à une époque. Il n'y avait que des défaites. Hein, sur le synthétique.
Ouais,
c'est
vrai qu'il y a eu du mal au début.
Il y a eu un nouveau synthétique. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu
une série de
défaites assez impressionnantes.
On va le dire pour.
Non, là, on a vaincu la malédiction l'année dernière, en fin d'année dernière, et depuis là, cette année, on a tout gagné sur le terrain de Saint-Alban. Donc, il est redevenu
on a chassé
la place forte.
Vous jouez plus à Saint-Alban qu'à Saint-Chély?
Non, au niveau des communes, on essaye d'équilibrer. Après, sur la période hivernale, sur les périodes un peu plus estivales, on joue sur le terrain de Saint-Chély. On a la chance d'avoir un super terrain pelousé à Saint-Chély, avec des gens qui s'en occupent très bien, avec Stéphane Berbon notamment. Et après, l'hiver, on est plus sur le synthétique. On commence à prendre nos marques sur le synthétique et à inverser la tendance de ce qui était notre force à l'époque, de jouer sur un terrain pas forcément en bon état, où on était plus sur de l'engagement et gagner des duels. Aujourd'hui, on essaye de pratiquer, dans la mesure du possible, un beau football et embêter nos adversaires sur ce domaine-là.
Tu joues en quoi avec l'équipe 1 en quelle tactique? Juste pour ça m'intéresse.
Alors, juste pour les adversaires qui écoutent.
Depuis le début de saison, on a évolué quasiment toujours en 4-3-3. Et depuis 3-4 matchs, on essaye d'alterner un petit peu. Je suis en train de proposer et d'essayer de mettre en place une alternative avec un 4-4-2 en losange qui a plutôt bien fonctionné, samedi. Qui est un peu plus exigeant en termes d'adaptation tactique, mais qui après nous offre des perspectives aussi intéressantes offensivement, où on était un petit peu à la peine sur les derniers matchs.
Tu crois en ces systèmes ou tu fais par rapport aux joueurs que tu as à disposition?
Ma première idée était quand même de m'adapter aux joueurs que j'avais au niveau du club.
Tu fais pareil, Julien Gueule, avec ton équipe qui gagne des 6-0 maintenant après avoir...
J'aime bien quand tu annonces ce genre de score.
Ouais.
Non, mais oui, en tant que coach, on est forcément un peu obligé de s'adapter aux joueurs qu'on a, même si après, on a des systèmes...
Parles à la Tuchel en ce moment.
Ouais. Europe. Si on a des systèmes un peu préférentiels, en tant que coach, on a tous des systèmes qu'on maîtrise un peu mieux que d'autres.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'en fonction des joueurs qu'on a... Non, mais
c'est vrai qu'il y a des coachs qui démordent pas d'un système et qui... Ancelotti, à l'époque, on parlait
on est obligé de s'adapter. Ouais.
La tactique en sapin, tu vois. Qu'est-ce que tu disais, Nico? J'ai pas compris ta blague.
Juste jouer à 11 le week-end, c'est tout.
Ah oui, ouais, c'est vrai.
C'est son premier objectif.
Moi, je m'adapte au nombre de joueurs.
Des fois, il joue un 4-4-1, mais c'est pas parce qu'il est obligé, c'est pas parce qu'il fait exprès.
T'as pas joué ce week-end? Non. Non, pas de match.
Oui. Non, mais c'est vrai que pour revenir à l'ON, bon, j'ai vu un seul match cette saison. Alors, c'était pas le.
Bon, c'est pas le bon.
Voilà, c'était pas. Mais bon. Donc c'est vrai qu'il fallait pas arriver en retard. Et d'ailleurs, je crois que Julien, toi, t'es arrivé en retard. Et donc, bon, il y a eu des buts adverses en Coupe de France assez rapidement. Donc c'est vrai que le suspense a été terminé assez rapidement. Mais là où je veux en venir, pas seulement sur ce match, mais c'est vrai que j'étais installé dans les tribunes au milieu des supporters de n'importe qui venait assister au match. Et c'est vrai que ce que les gens disaient, c'était voilà, ils étaient heureux de retrouver un stade plein avec une ambiance, c'est vrai, malgré ses buts rapides. Bon, voilà, il y avait des jeunes qui ont animé le match pendant 90 minutes, et donc on sentait les gens heureux de retrouver cette ferveur, parce que c'est vrai que le bassin de Saint-Chély, c'est un bassin de gens qui aiment le foot, c'est des amoureux de ce sport, et donc ils attendent justement de ces petites flammes, ces petites étincelles pour retrouver la ferveur qu'ils ont connue il y a 10, 15 ou 20 ans. Et donc voilà, c'était cette ambiance-là, et on le sentait très bien, et on le ressentait. Bon, alors que moi, ça faisait vraiment plusieurs saisons que je n'étais pas venu à Saint-Chély pour voir un match. Et donc, on voyait les gens, ils étaient heureux, et ce match, malgré le score, est assez plié rapidement. Bon, voilà, c'est vraiment un secteur qui aime le football.
Ça va être beau parfois cette année en Coupe de France. Oui, Nico.
Comme tu dis, dès qu'il y a un événement au niveau de l'ENL, au niveau du foot un peu important, le public répond présent. Moi, j'étais allé voir la Gambardella il y a 3 ans, oui, 2-3 ans, avec une très belle affluence au stade et beaucoup de monde. Et voilà. Donc, pour rejoindre ce que dit Patrick, dès qu'il y a un événement important au niveau du club de foot, ça suit derrière, quoi.
C'est vrai que la Coupe de France vous a bien aidé sur la première partie de saison par rapport à ça. C'est qu'on a fait un parcours intéressant avec de la réussite aussi, de la chance d'avoir des matchs à domicile. Le public est venu, s'est pris au jeu au niveau de la coupe. Du coup, ça a aussi aidé dans le bon début de saison, hein, hormis les joueurs qui venaient alimenter le club. Ce parcours en Coupe de France a ravivé un petit peu cette flamme, comme disait M. Biancone, dans le Nord-Lozère.
Du coup, ils vous suivent là en championnat? Le public est resté ou...
Ouais, le public est resté. On s'aperçoit malgré tout qu'il y a un attachement à la coupe, parce que samedi, il y avait une belle affluence malgré le froid. Il y avait une belle affluence à Saint-Alban pour ce match de Coupe Laura Foot. Hein. Après, les gens reviennent au stade. Ils sont heureux de pouvoir parler de l'ENL un peu la tête haute, entre guillemets. C'est important. Après, voilà, pour élargir un petit peu le sujet, il y a plein de choses qui se mettent en place au niveau du club, avec notamment la création d'une section féminine. Un gros travail sur la labellisation du club là au niveau des jeunes, la création d'une équipe 3 qui marche super bien, qui est première aussi dans son championnat. Donc c'est une année assez riche, intense, pas toujours facile, parce que ça fait beaucoup de choses sur la même année, en espérant qu'on aille au bout dans tous nos projets.
Ouais.
Justement, est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelle catégorie il y a dans ce club, des plus jeunes aux plus anciens, pour s'il y a des familles qui nous écoutent et dont les enfants seraient intéressés à se mettre au foot à l'ENL?
Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on a à minima une équipe par catégorie. Donc, les débutants, après, en fonction des effectifs sur les plateaux, c'est 3-4 équipes. 8 ou 9, c'est 3-4 équipes aussi. U11 sur les plateaux, c'est 3 équipes environ en général. On a une équipe U12, une équipe U13. Après, on passe sur la catégorie U15 qui joue au niveau district et qui est première de sa poule, qui a de grandes chances d'accéder au niveau ligue, qui est qualifié en coupe du Cantal encore, qui a fini première du département en futsal et qui est qualifié pour les finales régionales. Une équipe U18, donc qui joue toujours au niveau district avec des catégories U16, U17, U18 mélangées, qui est première de sa poule aussi, qui devrait pouvoir, qui a pris pas mal d'avance et qui devrait accéder au niveau régional également. Une équipe féminine U13, c'est un petit peu ma fierté parce que je m'en occupe aussi, et du coup je suis content qu'on ait pu créer cette équipe, et qui commence son championnat dans 15 jours, là, puisque sur la première partie de saison, c'était uniquement des entraînements. Et là, aujourd'hui, on attaque un vrai championnat en catégorie U13. Et un petit peu pour finir, donc 3 équipes
avec
seniors.
Des garçons.
Non.
Ah, il y a un championnat
uniquement avec 6 équipes de filles sur le Cantal.
Ah, d'accord.
Donc un championnat uniquement dédié aux filles en U13. Et pour finir, depuis peu, là, depuis le mois de janvier, un groupe de filles seniors qui commence à se mettre en place, qui avec le souhait de créer une équipe. Ce n'était pas prévu dans les objectifs de cette année. Mais
et là, c'est Aurélien qui veut s'en occuper, c'est ça ?
Voilà, c'est lui qui fait le recrutement, les castings. Okay,
ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Non, mais je vois le truc. Ouais.
Aïe, 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 le CSA.
Non, non. C'est pas beau ce que Laurent Julien dit, mais de toute façon, il est ciblé déjà par le CSA. Ils le connaissent.
Qu'est-ce que
j'ai dit ? Mais c'est encore l'autre.
Il a pris plusieurs avertissements déjà, quand même.
Ils ouais. le connaissent déjà à la Ligue de volée, c'est bon. Il peut bien tuer.
Ah, Nancy, ils le connaissent,
Nancy. Ouais. Tiens, on va en parler, ouais, de ça d'ailleurs. Mais c'est bien parce que tu disais deux, finalement, un bassin de population qui
et
est
des
pas,
vétérans,
qui est pas
allé jusqu'au bout du coup.
Ouais.
Des vétérans, alors.
Pour le coupe en plus.
Les vétérans.
J'étais en train de parler, tu m'as
non,
coupé.
Non, mais il n'a pas fini.
Ouais.
Les vétérans cette année ont un petit peu basculé sur l'équipe 3. Donc on a toujours des matchs de vétérans, mais une majorité des joueurs vétérans, c'est vrai qu'alimentent l'équipe 3.
Ok. Tu peux parler, Laurent ?
Vas-y.
D'accord, merci. Ouais, tu nous disais bassin de population qui n'est pas forcément énorme hein, en quantité. Et vous avez quand même réussi à avoir trois équipes, des équipes de jeunes sur tous les étages, équipe féminine. Il y a quand même de l'engouement au final. Hein.
Oui, oui, il y a de l'engouement. Après, c'est vrai qu'on est sur des effectifs qui sont toujours très, très tendus en termes de jeunes. Hein. Donc, on a besoin d'étoffer.
Plus la concurrence du handball. Je profite de passer un bonjour parce qu'on sait qu'ils nous écoutent. Le président du handball, j'imagine qu'il y a des jeunes qui basculent un peu au hand, d'autres qui viennent du hand. Enfin,
ouais,
il y a de la place pour les deux sports.
Je pense qu'il y a de la place pour les deux sports. Après, bon, moi, je m'entends bien avec Flo. Je pense qu'il y a de la place pour les deux sports. Le handball, c'est vrai que c'est beaucoup axé sur l'aspect féminin au départ. Et du coup, chacun trouvait sa place. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des garçons qui vont plus vers le hand. Après, chacun fait sa route, mais c'est vrai que c'est forcément, ça peut être concurrentiel, entre guillemets.
Donc, on pourrait faire ça, le Lilian qui coach les filles du hand, et puis Flo qui coach la R3 de l'ENL.
Ouais, il a déjà une expérience.
Il paraît qu'un avantage par rapport à toi. Ouais.
Moi, je n'ai pas l'expérience.
Pour terminer, les gros matchs là, qui vous attendent prochainement, quand est-ce qu'on doit venir là ?
Ouais, oui, venez.
Tout le temps, il faut. Mais bon, pour la montée, là, qu'est-ce qui vous attend ? Qu'est-ce qui va faire basculer la saison ? On sait que si vous êtes en tête, vous êtes serré.
Mon groupe, tous les matchs vont être importants. Hein. Ça fait beaucoup sourire Aurèle par moment. Mais tous les matchs vont être importants, à commencer par ce week-end à Saint-Alban contre une équipe mal classée. On s'est rendu compte il y a 15 jours, on a pris un petit revers quand même à l'extérieur. Pour moi, la difficulté, elle est plus sur ses déplacements à l'extérieur, sur des terrains compliqués. C'est des équipes souvent engagées où c'est difficile de produire du jeu et de prendre des points. Donc je m'appuie là-dessus. Enfin, j'espère vraiment qu'on va arriver à prendre tous les points face à ces équipes-là. Et après, donc plutôt sur la fin de saison, on a la chance de recevoir les quatre équipes qui sont juste derrière nous sur la fin de saison à partir de mi-mars jusqu'à fin mars jusqu'à fin mai, quoi.
Parfait.
Il y a Châtel-Guyon, après rappelons-nous.
Châtel-Guyon, ouais. Mozac, qui ouais. après, qui a priori a bien digéré son beau parcours en France et qui revient un petit peu dans la course. Une équipe comme Varennes, qui n'était pas trop attendue, qui a ressorti un petit peu la tête de l'eau. Et après, une équipe comme Saint-Didier-Saint-Just, c'est un petit peu nouveau pour nous, c'est les équipes du bassin de Saint-Étienne, où il y a beaucoup de qualité, mais. Oui, ils ne jouent pas forcément le jeu. Je crois que les joueurs jouent les matchs à domicile et pas trop à l'extérieur. Donc, je ne pense pas que ce soit eux qui viennent dans la course.
Nombre de licenciés à peu près à l'ENL ?
Aujourd'hui, on est à peu près à 230 licenciés. Avec une forte évolution, une trentaine de licenciés de plus cette année. On espère arriver à autour de 280 l'année prochaine, avec notamment le côté féminin où on va essayer de développer... cet axe-là.
Ça, c'est bien. On va donner les résultats, d'ailleurs, de la départementale féminine, hein, Julien. Après.
Quand tu veux.
Oui, oui. Ben, on va faire une petite pause musicale pour après parler de tous les autres sports. On a beaucoup à dire. Vous pouvez rester, messieurs. Vous pouvez partir si vous avez du travail. Vous faites comme vous voulez. On va faire juste une petite pause et on revient de suite après. Allez, on est reparti, on va rester de foot. Alors, nous allons parler de qui ? Nous allons parler de l'Avenir Foot Lozère qui a gagné 3-0 contre Saint-Clément-Montferrier, un contre Saint-Camp, un Almeyras-Saint-Pereira. À noter qu'il y avait l'ancien Mondois, Yann Barbu, Patrick, qui était là, qui a failli marquer.
Ah oui, une action qu'on voit quand même assez peu. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est le vrai tournant du match puisqu'il y avait 0-0 à ce moment-là. Donc, un centre magnifique du latéral de Saint-Clément, bien brossé. Donc il met une tête qui heurte la transversale. Et d'ailleurs, le gardien demande, il a pas pu bouger parce que tellement c'était bien fait. Donc le ballon lui revient et il met un petit tir d'ailleurs qui rate. Et donc le ballon tout doucement va heurter le poteau opposé et donc sort. Et donc ben, suite à ça, deux minutes après,
sur la même action.
Et ben, donc il y a un centre de Pereira et le défenseur central de Saint-Clément met une reprise d'anthologie, mais malheureusement pour lui dans son propre but.
Ah. Voilà. Il a vengé. Il a vengé Dimitri Contreras qui a marqué contre son camp à l'aller à Montferrier.
Une reprise de toute beauté sous la barre et donc 1-0.
Est-ce que c'est plus beau que le gardien de Caen?
Oui.
C'est Grenoble contre Caen.
Donc là, c'était vraiment un geste magnifique. Malheureusement pour lui, c'était contre son camp. Et donc, à partir de là, après, il y a eu une maîtrise totale, je dirais, de l'AFL tout au long du match.
D'accord. Alors, oui.
Sans être, Julien. Jean Patrick, sans être fantastique, c'est vrai que cette équipe de Montferrier n'a pas vraiment mis l'AFL en danger, à part un ailier, le numéro 11,
techniquement très bon.
À part un face-à-face ou deux sur Pierre-Antoine qui l'a sorti assez facilement, il n'y a pas eu grand danger quand même dans la défense de Mende.
Et puis tiens, parler Julien, c'est vrai que quand je regarde le match, j'ai pensé à ce que tu disais dans une précédente émission, donc ce fait William Pereira, et c'est vrai que vraiment puissant, hein. Puissant, rapide, il lâche rien, il se bat sur tous les ballons. C'est vrai qu'il a du déchet, il aurait pu marquer peut-être un ou deux buts de plus.
Oui, parce qu'en plus, avec ses qualités de vitesse et
la lourdeur... Il joue quoi?
Il joue à deux attaquants avec Loïc Coupin.
Ouais.
C'est vrai que la défense de Montferré dans l'axe était un peu lente et ouais. Donc deux trois fois il a réussi à les prendre de vitesse.
Aussi, là, qui en profiter.
Il est là depuis le début de saison.
Il est arrivé au début de saison.
D'accord.
Et donc il a marqué son premier but en championnat de la saison, le troisième, un très joli but d'ailleurs, un peu le but de Benedetto, le premier à Nîmes, tu vois.
Je l'attendais.
Une passe en cloche et un centre et puis après.
J'ai pas vu, j'ai pas regardé Nîmes Marseille mais.
C'est exactement. Donc Camara c'était Gorgui Fall. Bounassar, c'était Valencia.
Je t'arrête,
et
Patrick.
Et puis Pereira, c'était Benedetto.
Ouais, arrête-toi. Calme-toi, Patrick.
La même action.
Calme-toi, Patrick. Au classement, on se donne de l'air sur la fin du classement. On est quand même à 8 points du premier. Hein. Alberes Argelès qui est à 30. Lat qui fait du surplace depuis un moment. Là.
Il fait du 20 degrés, ce vin rouge là que tu nous as sorti. Là.
Oui, c'est fait exprès. Okay. Vous me coûtez tellement cher que maintenant je prends du vin très très fort pour vous calmer.
Il est de 2014.
Et tout le monde est calmé d'ailleurs, à part Nico.
D'ailleurs, 14 degrés. Donc, voilà.
Et Argelès qui a fait match nul à Rousson, 0-0.
Ouais.
On revient, Ludo, on revient.
Non, on a 8 points, Patrick.
T'as raison.
Bah, 8 points, c'est 3 victoires d'un
Rousson,
coup.
Rousson, ils se sont rachetés de leur, leur fessé au Bussol.
C'était pas le même groupe, mais bon. Il y a eu 0-0. Et après, 7 a fait un partout contre Latte.
Voilà, donc Alberes Argelès 30 points, Latte 2e 24 points, Mende 3e 22 points, 7, 21, 5e Frontignan 18, Bagnoles Pont 18 et 7e Uzès 17. Je m'arrête là parce qu'on est à 5 points du 7e, donc c'est plutôt bien.
Donc on va à Lunel là, dimanche.
Mais c'est très serré, hein. Tu dis qu'on est à 8 points du premier.
Ouais.
Et on n'a que 6 points d'avance sur la zone rouge.
C'est ça.
C'est toujours pareil, t'as toujours deux façons de lire ce classement, quoi.
Oui.
Il y a tellement c'est tellement serré, il y a tellement d'équipes. Tu regardes Rousson, La Clermontaise, Uzès, Montferrier, qui sont 7e, 8e, 9e, 10e, 17 points. Donc t'as Montferrier, qui a 17 points, qui est premier non relégable. Si Montferrier vient gagner à Mende samedi soir, Montferrier est devant toi.
Oui, c'est vrai.
Donc,
tu as raison.
Oui, parce que là, tu vas à Lunel, qui est avant-dernier, qui est le premier club
qui descend, relégable. C'est ça.
Donc là, et par c'est contre, jamais facile d'aller jouer à Lunel.
Et tu as 6 points d'avance sur un Lunel.
C'est ça. Donc si tu gagnes, là par contre ça te donne de l'air, c'est sûr, ça fait plus 9. Mais si tu perds, cette équipe de Lunel revient à 3 points de toi. Quoi.
Vous pouvez intervenir hein, quand vous avez envie, hein, chers invités.
Mais par contre, pour, puisque tu parles de Lunel, après il y aura une réception de Montarno. Donc ce serait bien qui est dernier, pour le coup. Donc ce serait bien de faire un 6 sur 6 et après tu vas à Argelès.
Ah, voilà. Intéressant ça.
Donc si tu gagnes les trois matchs qui arrivent, y compris Argelès, tu peux peut-être revenir à 3 points. Si Argelès est accroché.
Laurent, je te sens...
Il est dubitatif, ouais. Laurent. Dubitatif.
Le 20 degrés lui a fait mal.
Je n'ai pas compris ce que disait Julien, puisque tu parles de... Ils ont 17 points les autres.
Lunel.
Oui, mais 16
points.
Je me suis arrêté au 7.
Et pourquoi tu disais que s'ils nous battent, ils nous rattrapent?
Non, j'ai dit que Rennes a 3 points s'ils nous battent.
Ah, d'accord. Oui,
mais bon, c'est sûr, si t'écoutes la moitié
de
phrase.
Non, j'écoutais pas, mais j'ai mon voisin, il arrête pas de me parler aussi.
Ouais. Attention, Aurélien.
Une montée ou deux montées sur la.
Une.
Ouais, comme vous. Ça fait pas beaucoup une montée.
Parce qu'il y a 3 poules, donc les 3 premiers montent, puisqu'il y a 3 descentes de N3.
La FL2, la réserve sur le terrain de l'US Béziers, perd 2 buts à 3 en championnat R2, malgré un doublé de Fadil Gourma.
Et oui.
Hein Julien Gall, tu jouais ce match, c'était compliqué ?
On se l'est rendu compliqué. On se l'est rendu compliqué dans le sens où ils marquent sur leur première véritable occasion. On réagit très bien, parce qu'on égalise sur le coup d'envoi. Donc on ne peut pas avoir meilleure réaction. Sur une frappe écrasée de Paul, Souleymane suit bien, il s'entre en retrait pour Fadil qui pousse dans le but vide. Et 5 minutes après, on fait une très belle action, franchement on fait une super sortie de balle, une très belle action, qui amène un coup franc pour Fadil qui tire, c'est contré et ça lui revient dessus, il fait reprise de volée pleine lucarne. Donc on pensait
c'est
avoir...
un bon joueur.
Oh, il est pas mal.
C'est pas mal, pas ouais. Mal.
Il pourra revenir avec nous quand il veut, ouais. Et après ça, mais en tout cas,
par l'an dernier, de l'ENL, je vous signale.
L'an dernier, l'AFL en Coupe de France avait éliminé l'US Béziers en tour et Fadil avait qualifié l'AFL sur un coup franc pelle lucarne. Mais je peux vous dire que quand on est arrivé à Béziers, ils ont dit ah, regardez, il y a celui de l'an dernier.
Et c'est pas ceux qui nous avaient battu en finale de la Coupe il y a 2 ans
à Poussin.
C'est ça.
De la Ligue, ouais.
Quand on était monté de DH en CFA2 cette année-là. Et du coup, après ça, assez bizarrement, on s'est arrêté de jouer. Au lieu de, parce que je pense honnêtement, si on met le troisième but, on les enfonce et derrière, je pense qu'ils s'engueulent entre eux plus qu'autre chose. Et on s'arrête de jouer. Dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps, on prend 2 buts, dont le troisième juste avant la mi-temps qui fait très mal. Et on rentre vestiaire 3-2. Et deuxième mi-temps, on a outrageusement dominé. sans marquer. Béziers, franchement, à part une fois ou deux, ils n'ont pas dépassé le milieu de terrain. Ils étaient derrière et c'est une équipe qui joue le maintien. Donc pour eux, c'était une superbe opération de nous battre. Et donc, on n'a pas réussi à concrétiser nos occasions.
Parce que toi aussi,
et...
tu joues le maintien.
Ah, mais moi, je l'ai toujours dit que je joue le maintien. Je ne me suis jamais caché.
Allez, ça
pas parce qu'on avait fait 7 nuls sur les 7 premières journées qu'on avait joué le titre.
Ah, ben c'est sûr. Du coup, 6e, on part de la 6e place. 6e, hein. Nîmes Soleil Levant, 22 points. 7e, Frontignan, 17. 8e, Mende, 16. US Béziers, 9e, 16. Du coup, US Béziers qui reviennent. 10e.
Oui, classement, il a fait. Enfin, je sais
non,
pas,
il n'est pas bon, mon classement.
Non, parce qu'en fait, il y a. Le match de l'US Béziers, là, en fait, ils ont 16 points, je ne sais pas où tu l'as pris, mais en fait, ils ont eu match, ils ont eu match arrêté contre Vergès, parce qu'ils ont fini à 8 et ils ont perdu par pénalité.
D'accord.
Donc, en fait, ils ont moins 1. Donc, en fait, il y a dernier Montpellier-Arceau qui a 6 points. Ils ont gagné leur premier match ce week-end, d'ailleurs, Arceau. C'est là où on va dans deux semaines.
Ouais.
Donc, 12e, Uchaud, 12 points. 11e, Anduze, 14. Vergès et l'US Béziers qui ont 15 points et nous, on a 16.
D'accord, ok. Voilà. Bon, et là, on n'avait pas dit qu'il y avait peut-être 4 clubs qui descendaient au lieu de 3, on n'avait pas
fait,
dit ça.
En fait, c'est le moins bon 10e des 4 poules.
Ah oui.
Et là, le moins bon 10e a changé de poule.
Mais tu as une descente de plus puisque tu es 13 ans au lieu de 12 ans.
Et oui.
Nous, d'office, il y a 3 descentes.
Voilà.
Contrairement aux autres poules où il n'y en a que 2.
Ouais. Ouais.
Mais là, le moins bon 10e est dans une autre poule par rapport aux résultats. C'est un système de calcul. Donc là, aujourd'hui, on a 2 points d'avance sur la zone rouge. Et là, question opération maintien, le calendrier est bien fait puisqu'on va à Arceau, qui est dernier. Et on reçoit Anduze, qui est premier relégable.
D'accord. Ouais.
Voilà.
De match à gagner.
Donc, il faudra pas se trouver.
Ok.
Et donc, comme tu es 13, c'est pour ça qu'ils sont exempts le week-end prochain.
C'est ça, exactement.
Ok.
Voilà.
Très bien, super. On passe au U18 et R2. En espérant que Fadil Gourma va quand même finir par intégrer cette équipe 1.
Hein, c'est un premier pas.
Voilà, juste...
De toute façon, réglementairement, après, il ne pourra plus jouer un 2. Comment ça se passe?
Les 3 derniers matchs ou les 5 derniers matchs?
Les 5 derniers matchs.
Mais tu peux avoir quand même avoir
3
joueurs.
Avoir 3 joueurs.
Tu peux avoir 3 joueurs qui ont fait plus de 1
match. Plus de 10 matchs. Ouais. Donc, 10 matchs. Plus de 10 matchs en équipe 1.
Voilà.
Et là, sur le groupe de hier, le groupe qu'on avait hier peut être aligné
jusqu'à la fin de la saison.
Oui, enfin, on va quand même espérer que ça s'arrange. Parce
après, en plus, il met 2 buts, comme tu l'as dit, mais malheureusement, il est sorti blessé à la mi-temps.
Ah mince.
Il avait une douleur au genou et. Je pense pas qu'il ait triché, quoi, parce que venir en équipe 2 à Béziers, non. Faire la route et tout, il a pas simulé. Donc voilà, il est sorti à la mi-temps, dommage pour nous, quoi.
Oui, Nico.
Ouais, je voudrais appuyer juste ce qu'a dit Julien, parce que des fois, ça, c'est des choses qu'on peut entendre ou quoi sur Fado et le fait quand on a parlé des différends qu'il a eu avec Atita la semaine prochaine. Enfin voilà, à noter qu'un joueur comme lui, voilà, ou d'autres l'ont pas fait avant, et aller jouer en réserve à Béziers, ça montre l'attachement que ce bonhomme a envers son club malgré ce qui se passe en ce moment.
Oui, et qu'il n'avait pas approuvé parce qu'on le connaît cet attachement, oui, bien sûr. Merci Nico. Les U18 R2, on se dépêche, gagne 2-1 contre Montpellier-Arceau.
Victoire importante parce que Arceau était devant la FL au classement. Et du coup, là, la FL repasse devant Arceau, 3e à 2 points de la 2e place, qui est synonyme de monter en R1.
Ok. Voilà. Vite, hein, les U14, on l'a dit 6-0 contre Canet-Roussillon, bravo. J'ai donné ton résultat 2 fois, hein, ça va. Saint-Laurent-la-Canorgue, gagnant.
Il est dynamique aussi,
but
la dynamique
0.
De Julien.
Il est dynamique.
Ah, non, mais laisse. Je n'écoute pas.
Saint-Laurent-la-Canorgue gagne 1-0 face à Vabre et 6e avec 19 points. Football Sud Lozère n'a pas joué contre Galicien.
C'est pas qu'ils ont pas joué, c'est que Galicien fait forfait
14
surtout.
Points. Voilà. Bah, ils sont pas joués.
Ils sont derniers Galiciens, donc ils sont en perdition.
Marvejols Sport obtient le match nul 1-1 à Nîmes Soleil Levant et se retrouve 9e avec 13 points.
Ouais, contre la réserve de Nîmes Soleil.
Et le Buisson a gagné 3-1 contre Saint-Paulet.
Oui.
Et le Buisson a gagné 3-1 contre Saint-Paulet. On c'est est bon ça. Des résultats, on passe aux féminines.
Allez, les
résultats.
Tirage au sort de la Coupe Gare Lozère. Cette semaine, je crois. Oui. Je crois que c'est jeudi.
Oui. C'est jeudi, oui.
Ouais.
Féminine. Féminine. Alors, les résultats. Et après, je donne
féminine.
La D3.
Oui, d'accord. Alors, féminine, Marvejols a gagné le Malzieu 4-1. Le Buisson a gagné 2-1 contre Saint-Georges, le Saint-Georges du Cantal. L'Entente Valdo FSL a gagné 1-0 contre Chirac. Saint-Georges de Lévejac a fait 1-1 contre Aumont. Et Châteauneuf a fait aussi 1-1 contre le Gévaudan. Donc, au classement, ça donne premier Le Buisson 36 points. Deuxième, Marvejols 28. 3e Saint-Georges-Lévejac, 27 points. 4e Saint-Georges-du-Cantal, 21 points. 5e Châteauneuf, 21 points. 6e Chirac, 19 points. 7e L'Entente-Valdo-FSL, 17 points. 8e Aumont, 16 points. 9e Margerite, 6 points. 10e Gévaudan, 3 points. Et 11e et dernier, le Malzieu, avec moins 1 point.
Juste une petite question, là, vos filles, là, senior, elles vont intégrer le championnat Lozère ou Cantal? peut-être la question,
la question à 10 000.
Pas piège, hein, mais
un peu.
Bonne question, un peu. Oui, c'est un petit peu la question piège.
Ah.
Et après, il y a plusieurs options.
Non, parce que je vois qu'il y a du Cantalou qui vient jouer chez
oui,
nous.
Oui, c'est
donc,
pour ça. Ouais.
Je pose la question.
J'attendais. Il y a deux options. Après, aujourd'hui sur le Cantal, il n'y a pas de championnat, en tout cas au niveau district, à 11. Il y a un championnat à 8, féminin, ouais. Senior. Après, ça dépendra un petit peu, nous, de l'effectif qu'on aura en début de saison et de notre capacité à inscrire une équipe à 11.
Donc, s'il y a du monde, c'est en Lozère. S'il n'y a pas trop de monde, c'est dans le Cantal.
Bah, quoi qu'il en soit, c'est dans le Cantal. Après, avec peut-être une
dérogation.
C'est un peu bizarre, mais peut-être, on sera peut-être des Lozériens qui demanderont une dérogation pour jouer en Lozère.
C'est vrai. Non, mais il a raison, le coach. Ça paraît complètement ubuesque, mais c'est ça. Tu es sur un territoire Lozère. Ils vont être obligés de demander une dérogation pour que les filles, si elles sont 11, puissent intégrer le championnat à Lozère.
Les situations sont complexes et dans le handball, ce que je viens de me rendre compte, c'est que le handball Nord-Lozère est considéré comme une équipe du Cantal vis-à-vis des Lozériens.
Oui.
Et vis-à-vis des Cantalous, c'est une équipe de Lozère. Donc en fait, ils sont SDF, quoi.
Non, mais nous, on les considère comme un club lozérien dans cette émission.
Mais certaines.
Notre considération.
Ben oui.
La délégation, alors je sais pas comment ça s'appelle, de Lozère, le comité de Lozère. Ne les considère pas comme des Lozériens parce qu'ils ne peuvent pas.
Parce que le siège est
à Saint-Turcis, je crois, ou je sais pas où. Oui. Et par exemple, quand ils font des rassemblements chez les jeunes, ils ne peuvent pas prendre des jeunes de handball dans Lozère, dans la sélection Lozère.
C'est ça.
D'accord. Ce qui est dommage.
Et voilà.
Aujourd'hui, nous, c'est ce qui se passe au niveau du football. Après, c'est une volonté du club, hein, aujourd'hui, c'est un choix d'appartenir à,
mais oui, mais
à une région.
C'est normal.
Donc aujourd'hui, on est sur la région Lorafoot, le district du Cantal. Et depuis cette année, du coup, nos jeunes sont sélectionnés ou font les détections sur le département du Cantal ou la région Lorafoot.
Et donc là, ce que j'ai pu voir sur des réseaux sociaux, c'est que certaines personnes du comité du Cantal donc se réjouissent qu'il y ait une de leur équipe qui va en quart de finale de Coupe de France, mais il y en a d'autres qui grimacent en disant mais attendez, c'est pas des Cantalous, c'est des Lozériens. Mais enfin bon, mais peu importe. Enfin, c'est pour dire que c'est pas évident de.
Bah, chacun tire la couverture.
Non, mais c'est clair. Après ce que tu
peux. Oui, non, mais nous on s'en fiche parce qu'on n'y est pas. Mais je pense que ça doit pas être facile quand tu es dans le club.
Ce que tu peux dire au niveau du foot. Et d'ailleurs, quand j'étais monté à Seychelles pour interviewer le coach, il y avait des dirigeants et on avait abordé la question sans tabou. Et bon, même si c'est vrai que c'est une question un peu piège, mais bon, ils a répondu quand même assez franchement. Bon, on le sait, on en parle régulièrement. On est maintenant district Gare-Lozère, mais il y a un rapprochement de plus en plus puissant avec l'Aveyron. Donc, avec à terme, pourquoi pas la création d'un district Aveyron-Lozère. Et donc, dans ce cas-là, c'est vrai que pour le NL, ça change tout. Parce que c'est vrai que district Gare-Lozère, c'est compliqué. Mais un district Lozère-Aveyron, ça peut tout changer. Et donc, on pourrait assister peut-être au rapatriement de l'ENL dans la région Occitanie.
Par contre, ça veut dire qu'ils reprennent un départemental 5.
Oui, c'est pas. Ça.
Voilà.
C'est
clair. Les Aveyronnais, ils vous connaissent pas.
Pour le moment, c'est pas d'actualité. Nous, on essaie de se poser enfin sur une région, donc on va essayer de.
Ouais. Non, mais par contre, ce que tu soulèves, Patrick, il y a beaucoup de clubs qui l'attendent. Et t'es dit peut-être qu'il serait bien avant la fin de la saison de faire venir la délégation de foot de Lozère, on appelle ça. Et ça serait très très bien et très intéressant d'avoir l'avis du président, en tout cas, savoir où est-ce qu'il en est.
Moi, je voulais juste apporter une précision par rapport à la catégorie aux féminines.
Lui, il en a passé, il veut prospecteur dans
les districts. Non, attention. C'est pas ça. C'est à noter que le championnat Lozère des féminines se porte bien parce qu'on est des districts. Dans le Gard, c'est la même chose. Ils jouent à 8 en district, ils jouent pas à 11. Voilà. Juste pour dire qu'en Lozère, on a la chance d'avoir un championnat district avec 11 équipes à 11. C'est pas le cas ailleurs. Voilà. Donc le foot féminin se porte bien en Lozère.
Oui.
C'est la région phare, c'est vrai, c'est le département phare dans la Ligue Occitanie.
Et c'est tant mieux comme ça, hein, Laurent-Julien ?
Ça claque là tout de suite, hein ?
Hein ? Ça la pète, hein ? La Détroit, Lozérienne, Marguerite 0, le Masgros 6, boum. Grand-Rieux 0, le Buisson 2, 6, boum. Badarou gagne 2-1 contre Chirac, Chastel 1, Aumont 2, Mende 3, 1, le Malzieux 1. Et qu'est-ce qu'a fait notre ami Tom Fage? Il a gagné 1-0 contre le Valdonnez.
Eh oui, ça il respire mieux.
Là, il se donne de l'air. Hein. Il est 7e avec 17 points. Premier Badarou, 40. Le Masgros, 2e, 34. Mende, 33. Le Buisson, 26.
Juste avec Aurélien, on a une petite fierté parce que le Malzieux, notre pays natal, est venu accrocher les Mandois.
Qu'est-ce qui s'est passé là?
Ça arrive c'est pas ça. Toutes les années. Hein.
Non, c'est bien. Et ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, on a plus de contact avec cette équipe 3 là.
Depuis que j'y joue plus.
Depuis que Laurent a arrangé les crampons.
Ça fait quelques années.
Laurent il joue plus.
Si j'ai fait un quart d'heure cette saison.
Ah bon?
Contre Massegros, oui. Oh. Et non, plus qu'une fois, c'est contre Massegros.
Mes copains. Comme par hasard. Mes potes
non,
du
Massegros. C'est très bien passé.
C'est possible, mais. Non.
Mais non, t'en as pas.
Contestation, quelque chose comme ça.
Ce week-end, AFL Badarou.
Ah, ça c'est le derby. Une info.
Le derby cœur de Lozère.
Ben surtout pour l'eau du tableau quoi.
Ouais, enfin l'eau, ils ont 7 points d'avance si Badarou gagne.
Si Badarou gagne, ouais, c'est ouais. Ça sent bon la D2 Aveyron.
ou les barrages D2 Gare Lozère.
Mais non. Ouais. Ils vont jouer en Ardèche Badarou sont plus près. Oui. Il faut que tu parles dans un micro, sinon ça ne sert à rien, Nico. C'est le principe de la radio.
Le premier de Détroit Lozère jouera un barrage contre
Détroit Aveyron.
Voilà.
Et
le gagnant
qui perd, il va en D4. Hein,
voilà. Mais c'est ça.
Ah ouais. Et si tu gagnes, tu vas en D4 aussi.
Non, c'est si tu perds,
gagnes,
tu vas en D3.
Et si tu perds, tu es en D4.
J'ai fait un trait d'humour. Calmez-vous.
Ouais, il faisait des blagues, ça va. Allez, le MVL est officiellement en play-off. Ça y est. Mathématiquement, il a fallu attendre ce week-end pour qu'on soit en play-off de Ligue B. Après notre victoire contre Monde Avenir 2024, France Avenir 2024.
Bon, pardon.
Il est un peu fort. Hein. 30-28, 19-25, 25-15, 25-19. Avant de parler du match que tu as commenté, Laurent, le classement Cambrai premier avec 36 points. Ça te va, Julien? Tu me dis si je me trompe.
Écoute, vas-y, et si tu fais une bêtise, je te le dis.
Tu me le dis. Deuxième, Nancy, 35. Troisième, Saint-Nazaire, 30. Quatrième, Saint-Quentin, 26. Cinquième, le Plessis-Robinson, 23. Sixième, Martigues, 21. Septième, Mende, 21. Huitième, Fréjus, 19. Neuvième, IAC, 9. Et Avenir France, 2024, à 5 points.
Parfait,
merci. Alors, côté résultat, tiens, Fréjus est allé gagner à Martigues 3-7-1.
Oui, c'est un peu la surprise.
Et le Plessis-Robinson a gagné difficilement contre IAC 3-7-2 aussi.
Oui, c'est un peu la surprise.
Et attention, Nancy, contre qui, à l'heure actuelle, on s'est qualifié, a gagné facilement à Saint-Nazaire, 3-7-0. Oui.
Donc, on voit que Cambrai et Nancy font un peu le trou aux deux premières places.
Tant mieux la victoire de Fréjus. Du coup, on recolle avec Martigues si on peut gratter la sixième place.
Ça. Pour éviter Nancy tomber contre Saint-Nazaire.
Là, on a un gros match, un déplacement à Saint-Quentin qui va être compliqué samedi.
Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste trois matchs, non?
Oui.
Question préparation play-off, c'est pas mal.
Donc, il y a un gros déplacement à Saint-Quentin. Après, on reçoit Cambrai.
Très gros des réceptions. Ouais,
on reçoit Cambrai, le leader. Et on finit au Plessis-Robinson.
Ah, pas compliqué quand même les trois derniers matchs.
Donc, mais par contre, on est officiellement en play-off.
Oui, c'est ce qu'il a dit au début.
Parce que j'ai dit au début.
Oui, non, mais c'est bien
donc
de le redire.
Donc le 7 mars.
C'est le principal.
Le 7 mars, on va à Saint-Quentin. Le 14, on reçoit. Et le 21, dernière journée au Plessis-Robinson.
C'est ça.
Et après les play-offs. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'on avait dit. Premier match chez le terrain du mieux classé. Deuxième match chez le terrain du moins bien classé. Et
le mercredi suivant, s'il y a
un match d'appui.
D'accord.
C'est le mercredi suivant, donc.
Donc les matchs sont pas collés en plus.
Deux déplacements.
J'ai pas regardé le calendrier. Est-ce que les playoffs attaquent dès le 28 mars où il y a un trou?
Et alors j'ai essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé encore.
J'ai pas vu, ouais. C'est pour ça. Ouais. Peut-être je me suis dit t'as l'info.
Laurent, c'est quoi ce 30-28 là? Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est que l'équipe adverse, malgré sa dernière place, a quand même du ballon. Et on l'a vu sur les deux premiers sets, puisque le premier set, on le gagne de justesse. Et
miraculeusement.
Bizarrement, on l'a gagné, parce qu'ils ont eu la balle de set aussi, les petits jeunes. Et deuxième set, ils nous ont mis une tannée, mais vraiment la tannée, quoi. Et après, il n'y a eu plus rien. Donc c'est sûrement... c'est vrai que physiquement, c'est quand même un sport qui demande beaucoup d'engagement. Et donc ils ont craqué. Les petits jeunes, il y avait plus rien. Il y avait plus rien sur le troisième et quatrième set.
D'accord.
C'est d'autant plus bizarre.
Mais je pense qu'à la fin du deuxième set, il y a eu aussi
Sur la pause des 10 minutes, une peut-être mise,
oui.
mise au point, de
remise au point du coach dans les vestiaires.
Mmh. Mais c'est vrai que c'est d'autant plus surprenant que quasiment un des meilleurs joueurs de France à venir, juste avant ce match, a signé à Paris, en Ligue A, ouais. puisque Paris a un blessé.
Ah bon.
Donc, comme joker, ils ont pris un jeune de cette équipe. Et donc, bien sûr, ils n'ont pas pris le plus mauvais. Ils ont pris un des meilleurs de ce squad de jeunes qui est basé à Montpellier.
Donc, je regardais les stats avant le match. Il y avait un petit jeune qui s'appelle Tom Lavigne. C'est le plus jeune de l'équipe. Il est né au mois de mai 2002. Donc, mai 2002, qu'il aura 18 ans dans 3 mois. Et il est pas très grand et c'est le pointu de l'équipe qui avait des bonnes stats. Les deux premiers sets, il a tout fracassé quoi. Et après fini. Terminé, il a même pas fini meilleur.
D'accord.
De son équipe au niveau des points.
Vrai, il a tout donné. Ouais.
Mais voilà, c'est des joueurs qui individuellement sont très bons. Après collectivement, il leur manque de la maturité évidemment.
Ouais.
Mais on voit que si l'équipe mandoise n'était pas à fond sur les deux premiers sets, eh ben tu te fais corriger. Quoi.
Et tu avais un joueur qui s'appelle Eno, et dont le père est un des plus grands, si ce n'est presque le plus grand joueur de volley de l'histoire de ce sport en France, et qui est maintenant entraîneur de Tours et qui a été libéraux de l'équipe de France et des clubs italiens
un peu partout en Europe.
C'est son fils qui joue maintenant.
Au niveau du MVL, la compo, ça a tourné.
Oui, Ryan Utia n'a pas joué.
Disons que ça n'a
pas. C'est
Ali qui a joué. C'était le seul changement dans le 6 de départ. Et après, durant toute la soirée, aucun turnover. Tanguy Dijoud est rentré sur quelques ballons, mais c'est tout. Aucun autre changement.
Ok. Le jeune qui a envoyé des services, c'est.
Oui, il n'est pas André.
Amorim, d'accord.
Non.
C'est Nicolas West qui a fait des services.
Qui a été, alors, son meilleur match, hein, Nicolas West. Déjà, un nombre de points qu'il met, alors, il approche la vingtaine. Je crois qu'il doit être à 16-17 points, quelque chose comme ça. Ce qui est déjà énorme. Il a fait une très belle partie.
Sur la feuille de stade de la Ligue, en tout cas, il a marqué 12 points.
Je suis étonné. T'es sûr?
J'étais pas au match. Hein.
Non, mais t'es sûr que
je fais que recopier la feuille de
j'étais à 16, moi, à la fin du troisième. Enfin, peu importe, il a fait une très grosse partie, de très gros services. Jusqu'à présent, c'était pas forcément son point fort, les services. Là, il a été très bon au service en plus. Et non, une belle soirée. Ali, comme d'habitude.
Merci.
Ali Kerbois qui a été très fort.
Qui était bon.
C'est un peu le Dimitri Payet de cette équipe, Ali Kerbois.
Non, il est.
Merci,
non, Dimitri Payet, un coup il est bon, un coup il est pas bon, un coup il est bon, un coup il est pas bon, un coup il est blessé.
Non, il est toujours bon, Dimitri
Payet. Arrête. La réserve a gagné à Riom et reste à 4 points de l'Escar, mais avec un match de moins.
Donc ça plus envie de la faire ton émission, tu le dis.
Si, mais il est 13h25, il nous reste 5 minutes et j'aimerais parler du rugby et du handball.
Ah oui.
Hein ? D'accord ? Très bien. Le rugby ou le handball, qu'est-ce que vous voulez?
Le rugby, parce que c'était à domicile. Le coach l'a dit, dimanche à Mende, c'était pareil, c'est-à-dire de la pluie, des bourrasques devant. Donc pour jouer au rugby, c'était assez compliqué. Et donc on a vu une petite partie de manivelle.
Et la dernière de Koala.
Très intéressante.
On salue. Ouais. Dernière de Koala.
Mathieu Boursier, ce match. Un pilier exemplaire de ce club du RCML, et quelqu'un vraiment de sympa, adorable. Et c'est vrai que quand il est sur le terrain, c'est plus tout à fait le même. Mais bon, ça c'est normal aussi.
Il est moins adorable quand t'es en face. Ouais.
Donc il y a eu un super début du RCML 10-0, on pensait que ça allait être facile, on voyait déjà presque 30 ou 40 points d'écart, et puis cette équipe de Saint-Gilles n'a rien lâché, donc à la mi-temps, les gardons ont mené 12-10, et donc il a fallu une petite générale où l'arbitre a sorti un carton rouge de chaque côté. C'est vrai qu'on commençait à s'endormir, et donc on se disait que Saint-Gilles allait tranquillement gagner ce match. Et donc cette bagarre a réveillé le public et les joueurs de Mende, et donc il restait 20 minutes, et donc là il n'y avait plus qu'une équipe sur le terrain, et donc deux essais pour Mende. Et un dernier carton rouge pour... Alors là, le joueur de Saint-Gilles a craqué complètement. Dans un regroupement, il met un coup de poing à un joueur de Mende sous les yeux de l'arbitre. Même l'arbitre se demandait, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il a pris le rouge et l'arbitre a sifflé la fin du match, donc à 10 secondes près.
D'accord.
Voilà. Donc, joli match. C'est vrai qu'il y avait de l'émotion parce que on voyait tous les anciens à la fin du match autour de Mathieu Boursier. Et bon, je pense qu'il y a eu une grosse troisième mi-temps ensuite. En tout cas, le président préparait le derby. contre Lyon, il avait la perruque verte, l'écharpe de Saint-Étienne, le maillot. Donc il était chaud, il avait déjà préparé le derby avant que le match de rugby commence.
En tout cas, le clubhouse au rugby était encore allumé à 20h quand on est revenu de Béziers.
Ah ben, je pense que là, oui.
Ah mais à 20h, il commençait, hein, c'était que au début. Dernier match à domicile, il reste un match à l'extérieur et après on est en play-off.
Et alors là, il y a une petite trêve parce que tourne à destination.
Ouais.
Donc il va y avoir un dernier match, un déplacement.
Au cas où qu'il est sectionné ou...
Oui, voilà. C'est pour que tout
mais
monde
pour faire le pour match. Voir le match, quoi.
Et donc, je crois que...
Par contre, les pros, ils jouent, hein, quand même.
Voilà. Le week-end, donc dans 3 semaines, il y a le dernier match, un déplacement du RCM, je crois, à Poussin. Et donc, d'après ce que j'ai compris, mais à vérifier, le match de barrage, donc, pour les phases finales, c'est le premier dimanche d'avril. Mais il faudra vérifier, on ne sait pas encore contre qui, il faut vérifier la date. Mais
okay. A priori, c'est ça. On verra ça, Patrick. Le handball, le HBNL, ça y est, le tirage au sort des quarts de finale de Coupe de France est tombé. Alors, les rencontres auront lieu en Isère, Bourgoin-Jallieu, ça on le savait, dans le Palais des Sports, Stéphane Stocklin. C'est notre époque, ça, Stéphane Stocklin,
ah, oui.
Patrick.
Un beau gaucher.
Ouais. Au menu, les Alsaciens. Alors, de qui Vas-y, Laurent.
C'est pas le plus dur, non, Alsacien.
Ing Villers Buxwiller. C'est une entente, c'est deux villages.
C'est deux villages, ouais.
D'accord, ok. Donc c'est le dimanche 12 avril à 11h le matin. Leur quart de finale opposera avant à 9h30 les Girondins de Bordeaux, Codéran contre les provinciaux du HBC Arles. Et donc les deux vainqueurs du matin s'affronteront l'après-midi à 15h30 en demi-finale pour une place en finale. Où ça?
À Aix-en-Provence.
Voilà l'aréna, la belle aréna d'Aix-en-Provence. Hein, au mois de mai.
On a à te dire, très Ludo.
Ouais, c'est ça. Il y a un bus qui est déjà plein, il y a un bus qui va partir pour ces quarts de finale. MGC Pamiers, c'était le dernier match pour les féminines, c'était déjà qualifié contre les dernières, 23 partout. Du coup, elles finissent deuxième avec 35 points, derrière Bruguière qui a aussi 35 points, le Roc Aveyron qualifié 33 points, ouais. Bouillard 30 points, ces quatre équipes partent en play-off. Il y a beaucoup de play-off là cette année pour nous, hein, c'est bien.
Et donc, elles vont jouer combien contre Aramon, Lombès-Saint-Martin, Tournefeuille et le dernier club, je sais pas.
Je sais pas, j'ai pas regardé. Je me suis amusé à regarder par contre les résultats
parce que
qu'on a
joué
fait contre les.
Un match aller-retour contre les quatre les équipes de l'autre poule.
Ouais, c'est ça.
Je me suis amusé à regarder les résultats qu'elles avaient fait contre les trois équipes. Elles vont partir avec. Alors je sais pas comment ça marche, les points, c'est 0 point la défaite ou 1 point la défaite quand même.
Non, c'est 1 point la défaite, 2 points le match nul et 3 points la victoire.
Bon, ben voilà, ben, elles ont fait 2 défaites, 1 nul et 3 victoires. Donc
c'est pas mal.
C'est positif.
C'est positif. Ok, sur ce match, du coup, on peut voir.
Il y avait des joueuses qui n'étaient pas, en principe là, qui n'avaient pas fait le déplacement.
Ouais, il y a 7 buts sur 10 tirs pour Anna Sesko, 5 sur 8 pour Carole Akmel, qui est aussi passée en goal. Il a marqué 3 arrêts sur la feuille de match. Ouais. Et 4 buts sur 5 tirs pour Falcon Lucille.
Et elles sont parties la veille aussi, donc à intégrer aussi dans le résultat.
Voilà. Ouais.
Elles ont dormi sur Toulouse la veille.
D'accord. Ben oui, mais attends. Elles sont sérieuses, hein. C'est pas pour autant qu'elles font
la
fête.
Oui, permission de sortie jusqu'à 22h, je
crois. Jusqu'à 22h.
Ouais.
Et ça veut rien dire, parce
non,
que...
Non, 2h. Voilà. Ouais, c'est ça.
Non, mais en fait, c'était 2 plus 2. C'était
donc quand t'as autorisation jusqu'à 2h, tu sais que c'est 3h minimum. Mais...
Ouais. Alors, le 205...
Et juste quand même pour finir, les garçons du MGC qui ont gagné quand même.
Ah, ils jouaient. Ah, oui. D'accord, ouais, je l'avais pas, celle-là.
Très importante victoire.
Ils ont gagné 34-28 à Thuir, contre la réserve de Thuir.
Ouais.
Donc voilà, victoire importante comme le dit Patrick. Du coup, il recolle avec les autres équipes, puisque là au classement, ça fait Narbonne premier 9 points, deuxième Sainte-Afrique 6 points, troisième MGC 6 points, et les trois autres équipes, Thuir, Aramon, Prades-le-Lez, 5 points. Et ce week-end, donc ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué à la
samedi,
maison.
Samedi, ouais, ce samedi.
Samedi soir à 20h30, donc du coup, réception de Narbonne, qui est premier.
D'accord.
Narbonne, voilà. Que tu avais déjà joué en première phase.
Oui.
Belle équipe, hein. Moi j'avais vu le match de la première phase, attention, il y a des bons joueurs à Narbonne.
Ok. Très bien, on va finir juste avec, tiens, il y a eu un trail sur l'aérodrome de Mende, je ne sais pas si vous avez vu, 256 participants, LSN qui est... Florian, Julien et Alexandre Brassac remportent le 9 km.
Florian, c'est...
C'est de la famille à Laurent, ouais.
D'accord.
Non, absolument pas.
Parce que
Laurent
Julien,
c'est pas Florian
et Julien.
C'est Florian Julien.
D'accord. Ouais, c'est Julien. Mais c'est pas de ta famille, ouais.
Non.
Il y a deux
ans, on gagne pas les courses à pied.
Non. Et Edouard Rubio et Émilie Jourdan sur le 14 km. Et ils avaient du courage, hein, parce qu'il faisait froid.
Ouais, une belle affluence aussi, tout, malgré la météo.
Ouais, il y a eu du monde.
Alors, je l'ai dit, Tom marque un point sur Naples-Barcelone. Il va vraiment falloir le virer, parce que pour une fois que je pouvais gagner cette année, il prend la tangente, là. Tom, il a 7 points actuellement. Je suis deuxième avec 5 points. Nico, avec son point la semaine dernière, revient avec 4 points. Julien, 3. Mathilde et Patrick, 2. Et Lolo,
c'est quoi les matchs aujourd'hui?
Allez, gros match aujourd'hui. On va parier sur la Ligue 1. Rennes-Montpellier, Lille-Lyon.
T'es sérieux? Tu nous fais pas parier sur des Real Barça et tu nous mets des Rennes-Montpellier?
On n'a pas le droit à un droit de veto, les chroniqueurs, parce que Rennes-Montpellier, c'est un déconné.
Il y a le 4e contre le 5e et le 2e contre le 6e.
On vous dit, énorme match, Marseille-Amiens.
Marseille-Amiens. Non, il n'y a pas mieux que ça. Je m'excuse. Si vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas bon. Alors, Rennes-Montpellier, qui a gagné le petit jeu du début?
Il n'y en a pas eu.
Alors, je choisis.
Laurent parce qu'il triche.
De quoi?
Alors, Rennes-Montpellier, Laurent, vas-y.
Rennes-Montpellier, je vais dire 1-1.
1-1.
Le coach de l'ENL dit 1-1.
Oui, il a pris, c'est clair. Pourquoi tu
changes de tactique.
D'accord. C'est bête parce que je voulais demander à Lilian qui vote pour moi.
Il peut voter comme moi, ouais.
Tu paries pas sur le derby, non? Nice-Monaco, non, ça t'intéresse pas.
C'est nul, regarde le classement.
Oui, si tu veux.
Julien, vas-y, dis-moi.
Rennes-Montpellier.
Ouais.
Rennes-Montpellier, 3-1 pour Rennes.
Ok.
Juste pour te faire plaisir.
Non, mais vas-y. On perd à l'extérieur tout le temps, Montpellier. Donc, Nico.
2-1 pour Rennes.
Ok, Patrick.
Alors là, on est pour Montpellier parce que comme Rennes est derrière Marseille, donc il faut absolument que Montpellier fasse un truc. Et donc,
Avec ton cœur, tu vas perdre.
2-1 pour Montpellier.
Ok, Aurélien Paris pour moi, parce que moi je peux passer un choix du cœur.
Moi je dirais comme Laurent, un partout.
Allez, un partout. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Mathilde nous dit 2-0 pour Rennes et Tom nous dit 2-1 pour Rennes. Ok. Lille-Lyon, Mathilde nous dit un partout. Tom nous dit 2-1 pour Lyon à Lille. Attention, je vais dire 1-0 pour Lille. Patrick va dire.
Ben là aussi, je suis pour Lyon, parce qu'on a tellement d'écart avec Lyon, donc il faut que Lille est dangereux quand même. Donc, allez Rudy, donc 3-1 pour Lyon.
Ok. Allez Rudy, c'est clair. J'ai réécouté la semaine dernière où il disait « Ouais, j'aime Olas, Jean-Michel, on va voir contre la Juve. »
Nico a failli s'étouffer là.
Ah, tu pourrais nous parler de...
Nous, avec Patrick, on est pour que Rudy ait un club de Ligue 1. Ça fait chaque fois un concurrent à moi.
Et il est en train de nous ramener en Ligue des Champions.
Voilà. Exactement. Et ouais.
Il remonte là.
Il avait dit qu'il amènerait Marseille en Ligue des Champions. Mais il arrive cette année.
Il est en train de le faire.
Il arrive cette année.
Vas-y.
J'aime bien Rudy, mais 2-1 Lille.
Allez,
c'est quoi,
Julien.
C'est le match de dimanche soir?
Ouais.
Un bon 0-0 des familles.
Ah, c'est pas bête. Alors, ok. Laurent, que t'ont dit nos invités?
2-1 pour. Alors, ils m'ont dit 2-1 pour Lyon à Lille avec 2 pénalties refusées pour Lille.
Ok. Ah, mais comme Tom, tiens.
Ouais, mais c'est Jean-Michel Aulas qui est
au bar.
C'est ça. Bon, messieurs, merci d'être venus.
Attends, on a oublié de faire un petit message à une petite association sportive locale qui s'appelle les Lozelles. C'est des jeunes filles qui font du vélo pour le plaisir et elles se sont retrouvées à côté d'Andy Delors, Guillaume Guerrado, etc. Une
remise de prix. Kevin Meyer.
Kevin Meyer aussi. Et puis elles ont remporté un prix pour leur solidarité.
On va les inviter la semaine prochaine.
Quoi, mais en tout cas, bravo à elles.
C'était un prix d'Occitanie, des sportifs.
Ils font parler du sport en Lozère et c'est bravo à elles.
Ouais, super. Merci Laurent. Belle intervention.
Bah oui.
Tu as sauvé ta tête.
J'ai sauvé mon émission. Là.
Sur les 2 dernières minutes.
Merci.
Quoi. Allez, ciao les gars et longue vie.
Merci
à l'ENL.
Merci l'invitation.
Allez, pas de soucis.
Salut. Ciao.
Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
C'est le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde plus.
Allez, mon petit bonhomme.